Bonjour Madame, je suis à l'ADEME. Merci beaucoup pour cet exposé très stimulant. Et moi, pendant assez longtemps, j'ai travaillé au service économique comme sociologue. J'ai beaucoup été interpellée, bien sûr, sur le changement de comportement. C'est une question sur laquelle j'étais assez mal à l'aise parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, enfin, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre quasiment religieux, quoi. D'ailleurs, à l'ADEME, il y a beaucoup de gens qui sont aussi très militants dans leur vie privée et qui, du coup, énoncent une voix et, avec une forme d'autorité quasiment religieuse, quoi, si vous voulez. Donc, c'est comme si on était une armée de prédicateurs, d'évangélisateurs, etc. Ça m'a toujours mis assez mal à l'aise, en fait, à vrai dire. Et du coup, votre exposé, oriente pas mal et légitime le fait qu'on joue ce rôle, entre guillemets, de prêcheur, ou quelquefois même d'inquisiteur, hein, parce qu'il y a un côté ça peut aller assez loin. Et j'avoue que moi, ça me met un tout petit peu mal à l'aise. Alors, est-ce qu'on a autorité pour le faire, quoi, vous voyez, d'intervenir sur ce plan-là, en quelque sorte. Parce qu'en fait, même on pourrait dire que la religion chrétienne qui a occupé jusqu'en 1900 une place considérable dans notre pays, donc des examens de conscience, ça peut être des confessions, ça peut être... Vous voyez, et moi j'ai toujours été assez mal à l'aise avec ça, parce que je ne sais pas si c'est notre rôle de faire ça en tant qu'appartenant à l'État. Voilà, je voulais vous dire ça d'abord. Et puis après, effectivement, l'appétit consumériste satisfait un désir de toute puissance peut-être de l'homme. Et on a travaillé, par exemple, on avait travaillé dans un programme de recherche de déchets et sociétés sur l'accumulation des objets qui est ancestral. C'est-à-dire déjà les hommes de la préhistoire collectionnaient des objets, ça faisait partie de leur identité, construisaient leur identité à travers les objets. Et nous n'avons fait que multiplier, je ne vais pas dire à l'infini, mais quand on regarde tout ce qu'il y a dans nos maisons, de façon exponentielle, et le capitalisme a su, par ses capacités de production, à satisfaire au-delà de nos besoins, ce désir de toute puissance, voilà. Et du coup, on a l'impression qu'il n'y a plus de régulation, etc. Et que nous, on viendrait, on essaierait de réguler, de retrouver du sens, de ne pas être dans cette course-poursuite infinie, etc. Donc c'est une réflexion sur la limite qu'on a aussi en interne et qu'on ne sait pas trop comment prendre, quoi. Parce que après, assez rapidement, on en vient sur la question de la cèse, évidemment, et l'examen de conscience. Mais quel est le rôle de l'agence publique de l'État dans cette démarche, en fait? Est-ce que nous, on doit porter, du coup, des démarches spirituelles? Enfin, c'est vraiment, pour moi, assez... ça me pose question. Et c'est pas du tout un débat interne, parce que c'est pas vraiment dit, explicité, etc. Mais je pense que, quand même, d'une certaine façon, c'est sous-jacent. Et l'autre, j'avais une toute petite remarque, c'était intéressant, l'approche orientale qui est plus bottom-up d'une certaine façon, et puis l'approche occidentale qui est plus top-down, où on fixe un plan, puis les gens doivent se... Dans les histoires de la COP et du protocole de Kyoto, il y a eu une espèce de changement quand même d'orientation, parce qu'ils ont demandé dans la COP 21 que les pays produisent des rapports à partir de ce qu'ils étaient, ce qu'ils pouvaient faire, etc. Du coup, il y a eu un changement de posture qui est peut-être une orientalisation du protocole de Kyoto, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est juste une petite remarque, parce que c'était un truc qu'on a noté et qui est intéressant. Voilà, donc c'était quoi j'avais envie de dire à la suite de votre exposé.
Bien sûr, bien sûr.
Bon, c'est un gros problème que vous soulevez, hein, sur ce que peut être le rôle de l'État. Alors je pense que ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que justement, nous sommes dans une situation où c'est un peu comme si l'État n'avait pas de doctrine substantielle. Et de plus en plus, il y avait des doctrines procédurales. L'État peut mettre en place des dispositifs de concertation, de consultation, d'information, de participation. On peut décliner voyez, toute la gamme des dispositifs par lesquels l'État va essayer de faire se rencontrer et échanger une variété d'acteurs qui ont chacun leur propre vision, leurs propres valeurs, leurs propres intérêts. Et c'est comme si finalement la doctrine substantielle, c'est-à-dire le contenu que nous mettons dans un paradigme d'une certaine manière, était quelque chose qui relevait d'une autre sphère, la sphère privée. Alors, au sens très large, hein, ça peut être évidemment l'individu, ça peut être les associations, ça peut être l'Église. Et on voit vraiment qu'il y a, une dissymétrie importante entre la position dans laquelle se retrouve l'État et la position dans laquelle se retrouve l'Église. Parce que l'Église cultive le rapport au sacré. C'est même sa mission, de toute manière. Et on voit par exemple le travail de changement de paradigme qui a été fait par l'Église avec l'encyclique Laudato Si, par exemple. C'est vraiment une révolution à 180, pour ne pas dire 360 degrés, hein, de la doctrine de l'Église. En ce sens que c'est une réinterprétation complète de la Bible au plan théologique, hein, pour donner un nouveau sens à ce qu'est l'action d'un fidèle, d'un croyant. L'État n'est pas capable de faire une chose comme ça, tout simplement parce que l'État, alors, en principe du moins, n'est pas censé développer ou cultiver ce rapport au sacré, même s'il faudrait un peu nuancer le caractère sacré de l'État, évidemment. Et au plan individuel, c'est un petit peu la même chose, parce que vous avez évoqué cette tradition de l'examen de conscience, hein, qui fait partie de plein pied de la religion chrétienne, notamment. C'est des choses qui ont été pas mal étudiées par Michel Foucault aussi, hein, dans l'herméneutique du sujet. Enfin, c'est toute l'histoire, finalement, hein, de ces différents procédés par lesquels, depuis les origines, la philosophie antique et également de la philosophie chrétienne, et puis carrément de la doctrine chrétienne elle-même, les individus s'examinent, essaient de se comprendre, hein, de se sonder, etc. Et alors là, vous mettez le doigt sur une difficulté, hein, je pense, c'est très, très évident, c'est qu'en dehors, justement, de la tradition religieuse, chrétienne ou autre, peu importe, nous ne savons pas très bien à quoi, ce qui pourrait prendre la place de ça dans un monde laïque. Et c'est pour ça, à mon avis, que, bon, d'une certaine manière, les psychologues ou les psychanalystes jouent un peu, hein, ce rôle d'écoute, hein, de compréhension, hein, aussi d'aide à la prise de conscience, à la conscientisation, à l'exploration aussi de soi. On pourrait aussi, de façon symptomatique, je pense, voir dans l'émergence des coachs, hein, aujourd'hui, des gens qui sont appelés à jouer ce rôle-là, voyez, de prendre en charge une personne dans son processus de transformation, de changement de soi. Parce que c'est plus facile, en tout cas moins difficile, de le faire avec quelqu'un qui nous suit, qui apprend à nous connaître, à nous comprendre, que de le faire tout seul. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point de difficulté, parce que nous ne savons pas très bien, dans un monde séculier ou laïque, comment nous pouvons prendre en charge, sans tomber dans une espèce de magistère moral, de direction de conscience, qui est plutôt le fait, hein, des institutions religieuses.
Je connais bien l'ADEME, je travaille avec l'ADEME depuis 2005. Alors, je connais bien sur la question du changement de comportement. Et je dirais, je suis toujours un petit peu, parce que cette question, j'en ai discuté beaucoup, hein, avec l'UDR, justement, sur le fait que les agents sont souvent très engagés au-delà de presque moralement, etc. Et que parfois, ça peut interférer sur leur propre mission, mais j'ai pas observé ça très souvent. Il y a peut-être rencontré 3-4 personnes effectivement qui outrepassaient leur mission dans quelque chose d'un peu missionnaire, mais en général je trouve que, en fait, cet engagement, il est plutôt salutaire, parce que c'est leur motivation et c'est ce qui crée l'élan, malgré le fait que la mission est délicate, parce que les enjeux sont si importants et les moyens si faibles. Donc il y a aussi ça, en fait, je dirais, qui porterait, enfin, ce que j'observe chez les agents, peut-être cette motivation-là qui est très éclairée finalement sur la situation, qui va favoriser le changement, justement l'accompagnement du changement des partenaires sur le terrain. Après, moi, je ne vais pas être très long, plus sur cette question de la religion. Je me suis beaucoup intéressée au récit social aussi. J'ai écrit une lettre là-dessus. Et ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que, bien sûr, la religion chrétienne est un récit social, c'est-à-dire que qui va au-delà de la religion elle-même et des croyances qui sont sous-jacentes et des engagements spirituels, etc. Récit social, c'est-à-dire quand ça impacte profondément une société dans sa structure, dans sa culture, dans les gestes, les choix, les actions qu'on fait, hein, on est clair là-dessus. Le capitalisme est un récit social. Et d'un certain point de vue, c'est presque une religion. C'est une religion qu'on ne remet pas en question. C'est des croyances. La croyance qu'il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Et quand je discute du capitalisme, je suis très étonnée des croyances qu'on a là-dessus et qu'on ne remet pas en question. Notamment le fait qu'aujourd'hui, le capitalisme est basé sur le fait que le revenu du travail est redistribué à certains. Pourquoi ne pas redistribuer le revenu du travail à tous ? Voilà, ça c'est des choses qu'on ne remet pas en question. Et ça pour moi c'est des croyances, donc c'est une religion. Donc pourquoi faire de l'écologie soudain une religion ? Enfin, il y a beaucoup ces trucs, ben, c'est un vrai message de survie presque, je dirais, donc c'est fondamental. Non, pour moi c'est pas un message, c'est pas de la morale en fait, c'est la réalité. Voilà, est-ce que le capitalisme est aussi réel ? J'aimerais bien savoir. Voilà, c'est une réponse que j'aimerais.
Oui, mais même si c'est un défi, je crois qu'il faut se le dire. C'est ça le problème, c'est qu'il y a un monde. C'est-à-dire que, la position de dire ça flotte, c'est pas une réponse satisfaisante pour un État. C'est, s'il doit prendre en charge une partie comme ça, il doit l'assumer et le dire. C'est pas fait.
J'entends. J'entends parce que l'ADEME est une caution pour ne pas se positionner à un certain niveau.
On avait prévu quelques points d'éclaircissement, de clarification, et on va avoir un débat à la fin, après l'intervention de la prochaine, dans laquelle vous pourrez reposer toutes vos questions. Donc, gardez votre question au chaud, et nous n'allons pas l'oublier. Je vais passer à l'exposition de Mme Génricault, qui nous fait le plaisir d'intervenir sur la question du sens du sacrifice. Mme Génricault est psychologue clinicienne.
C'est ça.
Et elle va nous parler de cette question du sacrifice qui est un des points importants de notre sujet. Merci.